VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par la COP22 au Maroc. Les États-Unis sont en bonne voie pour réaliser leurs objectifs climatiques et ne pourront pas revenir en arrière. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le secrétaire d'État américain John Kerry à la conférence sur le climat de l'ONU à Marrakech. Les détails avec Nani Talani.
Je peux vous dire avec confiance que les États-Unis sont aujourd'hui en bonne voie de réaliser les objectifs internationaux qui ont été fixés. Je ne pense pas que cela sera inversé, en particulier pour des raisons économiques liées aux forces du marché, a déclaré John Kerry à Marrakech. Dans son discours, le secrétaire d'État américain s'est montré confiant et rassurant face aux incertitudes soulevées par l'élection de Donald Trump, qui avait menacé d'annuler les engagements américains au sommet sur le climat à Paris. Je ne peux spéculer ici sur les politiques que le président élu va mener. Ce que je peux vous dire est ceci. Certaines questions prennent un aspect bien différent quand vous êtes au pouvoir de l'aspect qu'elles avaient pendant la campagne, a avancé John Kerry. En marge de la conférence de Marrakech, plus de 360 entreprises, la plupart américaines, ont écrit au président élu Donald Trump pour lui demander de respecter l'accord sur le climat adopté en 2015.
Par ailleurs, à l'initiative du Maroc, un sommet africain s'est ouvert ce mercredi à Marrakech en marge de la COP22 pour définir la position de l'Afrique face au réchauffement climatique. Alors que la 22e conférence sur le climat bat son plein, ce sommet de l'action africaine à laquelle participent une vingtaine de chefs d'État veut donner une nouvelle impulsion à la lutte contre le réchauffement et à la construction d'un modèle de développement durable sur le continent africain. La réunion a débuté avec un discours du roi Mohamed VI qui a appelé l'Afrique à harmoniser ses positions face au changement climatique. Plusieurs présidents ont ensuite pris la parole, le Rwandais Paul Kagame, le Congolais Denis Sassou Nguesso et le Sénégalais Macky Sall, lequel a rappelé l'attente des pays africains après les promesses des pays avancés de financer la lutte contre le réchauffement à hauteur de 100 milliards de dollars d'ici à 2020. Toujours sur le climat, ce sommet est pour l'hôte marocain l'occasion de vendre son initiative Triple A en faveur de l'agriculture africaine, basée en partie sur l'accroissement de la fertilité des terres, alors que le Maroc, avec ses importantes réserves de phosphate, est l'un des principaux producteurs d'engrais au monde. En Côte d'Ivoire, le procès pour crime contre l'humanité de l'ex-première dame Simone Gbagbo se poursuivra sans elle et avec des avocats commis d'office. Bagassi Koura, c'est une décision ce mercredi du président de la cour d'assises, le juge Boaki Kwadio.
Madame Gbagbo a encore refusé de comparaître et ses avocats étaient absents à la séance. Le juge Kwadio a estimé qu'on pouvait passer outre la présence de Madame Gbagbo et poursuivre les débats. Il a commis d'office des avocats et renvoyé l'audience au 28 novembre. Madame Gbagbo refuse de comparaître depuis plusieurs séances pour protester contre la non-comparution en tant que témoin de plusieurs personnalités, dont Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion, Jeannot Kouadio-Aoussou, ancien premier ministre, ou Charles Kofi Dibi, un ancien ministre. L'ancienne première dame comparaît pour son implication présumée dans des crimes lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011 qui a fait plus de 3000 morts en 5 mois. Simone Gbagbo a déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
Au Nigeria, le groupe rebelle nigérian des Vengeurs du Delta, auteur de nombreux sabotages depuis le début de l'année dans le sud pétrolier, a revendiqué aujourd'hui plusieurs nouvelles attaques dans la nuit de mardi à mercredi contre des oléoducs dans l'État méridional de Bayelsa. Aucune confirmation de ces attaques de la part des autorités nigérianes ou des sociétés concernées. Mais les opérations de sabotage des Vengeurs du Delta ont provoqué une forte chute de la production de brut du Nigeria qui a cédé à l'Angola la place de premier producteur africain de pétrole. Et toujours au Nigeria, l'ONU tire la sonnette d'alarme. 14 millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence et 75 000 enfants risquent de mourir de faim dans quelques mois. De son côté, le gouvernement nigérien a prévenu d'une possible famine dans le pays. Anastasie Toudièche.
D'après Peter Lundberg, coordinateur de l'action humanitaire pour les Nations Unies au Nigeria, 14 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, dont 400 000 enfants dans une situation critique et 75 000 qui risquent de mourir dans les prochains mois. Il a donc lancé un appel aux donateurs à mettre la main à la poche. Pour l'instant, l'ONU n'a recueilli que 180 millions de dollars, alors que les besoins se chiffrent à 485 millions de dollars. Abuja voudrait faire plus pour les millions de déplacés par les attaques de Boko Haram dans l'état de Borno. Mais avec la chute du prix du baril, le géant pétrolier est entré en récession. Le pays manque de devises pour importer sa nourriture. Le porte-parole de la présidence, Garba Shehu, a demandé lundi aux producteurs de céréales nigérians de vendre sur le marché national au lieu d'exporter vers les pays voisins. Selon lui, le Nigeria pourrait être en situation de famine d'ici janvier prochain.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Centrafrique, l'Union européenne, l'ONU et les grandes ONG ont multiplié aujourd'hui des plaidoyers en faveur de la Centrafrique à la veille d'une conférence des donateurs à Bruxelles pour financer le relèvement du pays. Lors de la conférence de Bruxelles, nous nous engagerons ensemble à maintenir la République centrafricaine au centre des préoccupations internationales, promettent dans une tribune conjointe le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, le chef de la diplomatie de l'Union européenne Federica Mogherini, le vice-secrétaire général de l'ONU, Jan Eliasson, et le vice-président de la Banque mondiale, Makhtar Diop. Les besoins en matière de relèvement économique et de consolidation de la paix sont estimés à 1,5 milliard de dollars au cours des trois prochaines années, soulignent les signataires du document. Le président Touadéra doit présenter demain à Bruxelles un plan national quinquennal pour restaurer la paix, reconstruire l'armée nationale et l'administration de l'État, assurer les services sociaux de base et aussi relancer l'économie. Au Cameroun, 21 personnes sont mortes après avoir consommé de l'eau d'Ontol, une boisson locale très alcoolisée et réputée dangereuse. Les autorités des zones concernées ont annoncé l'interdiction de la production et de la commercialisation de ce breuvage, produit et vendu généralement dans le circuit informel. L'eau d'Ontol est produite à base de vin de palme, de sucre et d'une écorce d'arbre. Il est bon marché. Il attire les petites bourses qui ne peuvent s'offrir les bières ou le whisky vendu dans les commerce. Ce n'est pas la première fois que des morts sont enregistrées dans le pays après la consommation de cette boisson. Actualité hors d'Afrique, maintenant, la Russie a annoncé son intention de retirer sa signature du statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale, la CPI. Moscou reproche à cette instance de ne pas être véritablement indépendante et de ne pas avoir été à la hauteur des espoirs placés en elle. Les détails avec Tatiana Mosso.
Moscou a signé en 2000, mais n'a jamais ratifié le statut de Rome portant création de la CPI. La diplomatie russe reproche à l'instance judiciaire de se focaliser sur les crimes présumés des milices ossètes et des troupes russes en Géorgie, passant selon elle sous silence les actions présumées des troupes géorgiennes. La CPI avait annoncé fin janvier ouvrir une enquête sur la guerre entre la Russie et la Géorgie en 2008, sa première en dehors de l'Afrique. Elle enquête également sur le soulèvement pro-européen du Maïdan en Ukraine et le conflit qui a suivi dans l'est du pays, où Moscou a été accusé de soutenir militairement les séparatistes pro-russes. Trois pays africains, la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi, ont récemment annoncé leur intention de se retirer de la CPI. Les États-Unis et la Chine ne sont pas états partis au statut de Rome.
Et pour terminer, politique américaine, la transition de l'administration Obama au futur gouvernement du président élu Donald Trump s'accélère. Donald Trump et son vice-président Mike Pence ont eu des consultations mardi à New York pour discuter des candidats au poste clé de leur future administration. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Messieurs Trump et Pence, qui assumeront le pouvoir le 20 janvier, ont plus de 4000 emplois à pourvoir. Mais pour l'heure, l'accent est mis sur les postes de secrétaire d'État, secrétaire à la Défense, ministre de la Justice et secrétaire à la Sécurité intérieure. Il s'agit là de ministères qui seront en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Mais aucune annonce n'a été faite à la fin des consultations entre le président élu et son numéro 2. Selon certains de leurs collaborateurs, Rudy Giuliani, âgé de 72 ans pour être nommé secrétaire d'État, ce farouche partisan de Trump n'a aucune expérience en politique étrangère, fait-on remarquer. Mais Giuliani s'est rendu célèbre il y a plus d'une décennie quand il était maire de New York lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Il est devenu depuis un symbole de la détermination des États-Unis à défaire le terrorisme islamiste. Serait également sur la liste John Bolton, ancien ambassadeur de George W. Bush à l'ONU. Ce faucon républicain était, pour rappel, un chaud partisan de l'intervention américaine en Irak. Trump a toujours soutenu, lui, qu'il était contre.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Sur VOA Afrique.